musique et actualité locale, Radio Écho des Choucas, 103.7.
Aujourd'hui, nous parlons de course de ballon avec la Gordon Bennett et nous avons le plaisir de recevoir Eric Decellière, pilote de l'équipage France 2 qui termine deuxième de cette édition. Bonjour Eric.
Bonjour.
Donc tout d'abord, comment allez-vous après cette course extraordinaire que vous avez partagée avec, bien sûr, votre ami Benoît Avré?
Alors, on va très bien parce qu'on était avec l'excitation du résultat. J'avoue que depuis 3 jours, je suis revenu chez moi. Là, il y a un peu le contre-coup, à la fois physique et mental. Physique parce que la fatigue de 10 jours, bah, ça tombe un peu tout d'un coup. Il faut un peu quelques jours pour s'en remettre. Et puis mental, sachant que quand on fait une course comme ça, qui a été très très longue et difficile, il y a de la rémanence pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Notre instructeur Vincent Lesse m'avait dit il y a 7-8 ans en arrière, quand j'avais fait ma première Gordon, tu verras, ça dure à peu près 3-4 semaines. Et c'est vrai que la première fois, toutes les nuits, pendant 3-4 semaines, j'avais rêvé au vol, j'étais en vol, etc. Maintenant, avec l'habitude, c'est un petit peu moins, mais cette nuit, j'étais encore en vol, avant-hier aussi. Donc, on s'attend à ce que ça dure plusieurs jours, parce que c'est des émotions tellement puissantes, tellement intenses que ça passe pas comme ça.
Et oui, justement, des émotions très fortes avec ce résultat en plus, hein, qui vient couronner cette belle course avec cette deuxième place. On va y revenir. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette discipline?
Alors, la Coupe aéronautique Gordon Bennett, c'est la plus vieille course aéronautique du monde. Elle existe depuis 1906, quand le mania de la presse James Gordon Bennett avait décidé de lancer ça à Paris. Et la première a décollé de Paris en 1906 en disant « ça sera une compétition entre nations, tout le monde partira avec un ballon gonflé à l'hydrogène, et le but, très simple, c'est d'aller le plus loin possible ». Au bout d'un jour, deux jours, trois jours. À l'époque, les gens volaient 20 heures, 25 heures, c'était déjà énorme. 30 heures, 40 heures. Aujourd'hui, avec l'électronique, les PC courts, etc., on arrive à taper dans les 80, 90 heures. Mais le but est le même. On part avec un ballon, aujourd'hui avec 1000 mètres cubes. Et chaque équipage doit aller le plus loin possible. Chaque nation ne peut être représentée que par 3 représentants au maximum. C'est pour ça que, par exemple, il y avait 3 Français, 3 Allemands, 3 Polonais. Mais il y avait, par exemple, que 2 Autrichiens. Il n'y avait qu'un seul Américain. Voilà. Mais on a le droit qu'à 3 personnes. Et quand on gagne, c'est au nom du pays, au nom de la France. Donc, depuis 1906, ça a toujours été comme ça. Quel que soit le pilote qui gagne, France 1, France 2, France 3 ou Suisse 1, Suisse 2, Suisse 3, il rapporte le trophée au pays. C'est un peu comme la Coupe Davis, hein, et le pays, l'année suivante, organise la course. Et pour garder le trophée définitivement, ce qui est arrivé peu de fois en un siècle, il faut gagner la course 3 années de suite, consécutives. Donc, ce qui est extrêmement difficile. Voilà un petit peu le but de cette course. Et évidemment, pour tout le monde, c'est pareil, qu'on soit en 1906, 1920 ou 2021, on pilote. Pour monter, on balance du sable, donc on jette du lest. Et pour descendre, eh ben, on ouvre une petite soupape en haut du ballon pour libérer un peu d'hydrogène pour pouvoir recaler sa trajectoire à des altitudes un peu moins élevées. Ce qui est génial, c'est que quand Charles et Robert ont inventé le ballon à gaz, donc le 1er décembre 1783, c'était pareil. Il y avait une enveloppe étanche. Il y avait un bac à sable à balancer du sable et il y avait déjà une soupape. Donc, on pilote des ballons de la même manière qu'il y a 225 ans. Voilà.
Ouais, c'est juste incroyable. Maintenant, voilà, l'arrivée de l'électronique, etc., fait que voilà, on va pouvoir voler, on va dire, avec des éléments en plus, mais le principe fondamental est exactement le même.
Exactement. Alors aujourd'hui, j'allais dire, si on fait un parallèle, c'est un peu comme les courses autour du monde en voilier. Les gens qui font la traversée de l'Atlantique, le Vendée Globe, etc., ils naviguent en 2 dimensions. Et le pilote, s'il est tout seul à bord de son bateau, derrière lui, au PC course, il a tout un tas de personnes. Météorologues, routeurs, stratèges, etc. Nous, on évolue en 3D, mais c'est de la même manière. C'est-à-dire que à bord, on pilote, mais on a besoin d'un PC course très fort. En France, on a la chance d'avoir un PC course commun. Et dans notre PC course équipe de France, on avait 2 météorologues, 2 contrôleurs aériens, un civil, un militaire, et on avait 8 routeurs. Des routeurs pour chaque ballon qui calculent les trajectoires en permanence toute la journée, qui s'adaptent en fonction de la météo, de la vitesse du vent, de l'altitude, des voies aériennes à traverser, des zones militaires à éviter, etc. Donc le PC course, c'est hyper important aujourd'hui, c'est hyper stratégique. Quand on a un bon PC course, c'est sûr, on gagne pas. Quand on a un excellent PC course, on peut espérer gagner, mais il faut avoir un super méga excellent PC course pour être sur le podium. Donc c'est aujourd'hui très très important, d'autant plus que la prévision météo commence à être extrêmement précise Par exemple, notre PC course qui nous a calculé les trajectoires samedi 21 août, en milieu d'après-midi, il a dit voilà, il y a une trajectoire possible, faut contourner la dépression, passer par le nord de l'Europe, et normalement, on va dans le sud-ouest de la France pour mercredi matin. Ce qu'on a fait. Donc, c'était assez puissant. Et je pense qu'en bateau, le parallèle est le même. Quand ils font la course autour du monde pour aller le plus vite possible, puisque c'est une course de temps, ben, ils font un peu comme ça avec leur PC course. Donc, voilà un peu comment ça se passe.
Une course vraiment incroyable. Comment êtes-vous venu à cette discipline ?
Alors, moi, ça fait déjà plus de 30 ans que je fais de la montgolfière. J'avais toujours aimé ce qui volait, hein, les ballons, les avions. Bref, tout ce qui vole. Et avec mon école d'ingénieur, l'ICPI à Lyon, il y avait le raid aéronautique des grandes écoles. C'est un truc qui a démarré au milieu des années 80. Il y avait la course croisière de l'EDEC en bateau, qui était très connue. Nous, il y avait le raid aéronautique des grandes écoles, et je suis venu à ça parce que il fallait trouver des sponsors pour pouvoir voler, et toutes les écoles, les grandes écoles, essayaient de trouver des sponsors pour pouvoir faire un partenariat école-entreprise. Donc moi, j'étais dans l'école, j'étais dans l'organisation, et après, ben, je me suis mis à piloter une montgolfière, à faire des compétitions en direction des vols. Voilà. Et puis, au bout de 20 ans, comme d'autres, je m'étais dit « Ah, le Saint Graal, c'est quand même le ballon à gaz ». Et j'ai contacté mon instructeur en 2009, donc presque 20 ans après, en disant « Ah, j'aimerais bien faire du ballon à gaz, découvrir ça ». Et le premier vol, ça a été la découverte absolue. Parce qu'en montgolfière, on vole une heure et demie, il faut chauffer en permanence, il y a du bruit, puis on sait que le vol est court. En ballon à gaz, c'est la lévitation absolue, physique mais mentale. On est dans une zénitude absolue, et là, j'ai découvert un autre monde où on pouvait voler des heures et finalement des jours, avec une pelle à sable, et qu'on pouvait aller presque où on voulait. Donc, j'ai trouvé que c'était le vol absolu dans le silence absolu, porté par les vents, parce que là, on est face à la nature et avec la nature. Donc, ça a été vraiment la découverte. Et puis, donc, maintenant, ça fait 12 ans que je fais du ballon à gaz. Voilà.
Et voilà, maintenant, la Gordon Bennett, bien évidemment. Et comment prépare-t-on une telle course ?
Alors, la Gordon Bennett, elle se prépare de plusieurs manières. Déjà, dans la mesure du possible, il faut essayer de voler. En France, c'est extrêmement compliqué parce que l'hydrogène est très très cher comparativement à l'Allemagne. Donc si on peut, on essaye d'aller une fois ou deux dans l'année voler en Allemagne. Parce qu'un gonflement de ballon à hydrogène en France, si on gonfle à 1000 m3, il y en a pour 2000 euros. Donc on fait pas ça tous les jours, on fait peut-être ça une fois par an. Mais si on va voler en Allemagne, les prix sont à peu près 10 fois moins chers. Donc on arrive à... Il y a une base qui est à côté de Düsseldorf qui permet de voler. Ça, c'est la partie vol. Mais il y a surtout la partie pratique et matérielle. On a une checklist, par exemple, qui est de plus de 300 lignes. On a un tableau Excel avec tout ce qu'on emmène à bord. Et on pèse tout. C'est-à-dire qu'il y a la partie équipement, donc des tablettes pour la navigation aérienne, GPS, altimètre, variomètre, téléphone satellite Iridium, des moyens de communication, qu'on soit à 1000 mètres ou à 3000 mètres. Il y a l'équipement chaleur. Donc comment on se protège de la chaleur ? Il y a l'équipement froid, on a des combinaisons moins 40 degrés. On a les équipements de survie, donc des combinaisons de survie en mer si jamais on survole la mer et qu'on a un problème. On a un radeau de sauvetage en mer. On a évidemment les habits, on essaye d'emmener le minimum d'habits, mais il faut des chaussettes de contention, parce que quand on prend l'avion pour aller à New York, on prend des chaussettes de contention pour 8 heures de vol. Là, quand on fait 30, 40, 50, ou comme nous, on a fait 81 heures de vol, on a intérêt d'avoir les chaussettes de contention, parce que quand on reste assis dans un mètre carré pendant presque 4 jours, il faut faire des exercices pour la circulation sanguine. Et puis, bon, après, il y a quelques équipements, des médicaments au cas où on ait le mal de tête ou la diarrhée, etc. Au cas où on se coupe ou on se blesse, on a une petite trousse de secours. Voilà, donc il faut essayer de penser à tout ça, et puis il faut essayer de penser à tout, avoir le matériel redondant. C'est-à-dire qu'on a deux bouteilles d'oxygène, parce que au-delà de 3000 mètres, il faut emmener de l'oxygène. Nous, on a volé entre 4 et 5000 mètres pendant deux après-midi, donc on avait de l'oxygène avec un régulateur électronique. Il faut avoir deux ordinateurs, il faut avoir au moins deux GPS, au moins deux radios et transpondeurs pour être vu de tous les contrôleurs aériens. Donc il y a une checklist de matériel qui est très très importante, et on essaye à chaque fois d'avoir le minimum de poids. Tout ce qui est le plus léger, c'est mieux. Parce que moins on emporte de poids, plus on emporte de sable. Et plus on emporte de sable, c'est comme si on emportait du carburant, donc plus on peut voler longtemps. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Donc dans la préparation, il y a un gros travail de préparation, matériel, checklist, etc. Voilà.
Ah, c'est vraiment, vraiment impressionnant, voilà, de découvrir tout ça. Vous êtes également donc deux dans la nacelle. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez chacun un rôle? On imagine, voilà, il y a une rotation, car il faut penser à dormir, hein, avec plus de 80 heures de vol. Voilà, comment ça se passe dans la nacelle?
Alors déjà, on ne part pas à deux par hasard. Avec Benoît Avré, ça fait 10 ans qu'on fait du ballon à gaz. On a à peu près le même profil, la cinquantaine, un boulot de cadre, des enfants, une famille tout à fait normale. Et on a aussi la chance d'avoir eu le même instructeur qui nous a appris à voler, appris à piloter, appris l'esprit du vol, de la compétition, etc. Et donc, il fallait déjà avoir ce même état d'esprit pour bien s'entendre. Ensuite, à bord, bon, évidemment, il y a un pilote et un copilote, mais ça, c'est sur le papier. Mais on a exactement les mêmes fonctions à bord, parce que pendant qu'il y en a un qui dort, l'autre pilote, et vice-versa. Et il faut avoir une confiance absolue dans son copilote, parce qu'on a, entre guillemets, sa vie entre ses mains. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, dès le départ, discuter des conditions. S'il y en a un qui n'a pas envie d'aller au-dessus de la mer et l'autre a envie d'aller au-dessus de la mer, bah, il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Si au bout de deux jours, il y en a un qui est fatigué ou qui est malade ou qui a mal à la tête et qui dit on se pose, bah, faut que les deux soient d'accord. On dit voilà, quand il y en a un qui ne va pas, s'il le fond, on se posera. Puis il y en a un qui va faire le décollage et puis nous, on s'était mis depuis le départ, on avait dit voilà, ça sera toi qui feras l'atterrissage. Benoît a plus d'expérience de moi en pilotage, en vol souvent et en atterrissage, donc c'était un peu logique qu'il fasse l'atterrissage. On se partage un peu les tâches. Et à bord, surtout, on discute énormément de la stratégie tout au long du vol. Voilà, le PC course nous dit qu'il faut monter à 3000 mètres, il faut monter à 3000 mètres, on trouve pas tout à fait le banc, donc on va chercher, on va le trouver à 2900 mètres ou à 3250 mètres. Ah ben là, on devait aller dans le 230 degrés, on a que 228. Un ou deux degrés de navigation d'écart, ça paraît pas grand chose, mais sur 100, 200, 500 ou 800 kilomètres, à la fin, ça fait un sacré écart. Voilà. Donc, on a en permanence ce brainstorming sur les points qu'on a à viser de notre trajectoire. Donc, c'est vraiment un pilotage bicéphale. Les deux premiers jours, là, on a réussi à faire un petit peu des siestes, dormir une demi-heure, une heure. Mais comme la course était très difficile, la dernière nuit, on n'a absolument pas dormi. Le dernier jour non plus. Donc, j'allais dire sur les 81 heures, on a dû dormir peut-être correctement 5-6 heures. Et puis, on a fait des petites siestes de 20 minutes. Donc, au maximum, on a dû dormir 8 heures en 4 jours. Quoi. Donc, c'est très, très peu.
Et effectivement, c'est très peu hein, avec une telle course. Hein, plus de 80 heures, quasiment 81 heures de vol et plus de 1500 kilomètres voilà, en vol. C'est juste incroyable. L'atterrissage, apparemment, était quand même assez mouvementé, on va dire, assez intense.
Alors, en fait, l'atterrissage, parfois, il n'y a pas beaucoup de vent, on se pose normalement. Mais comme on part en Gordon Bennett et qu'on sait qu'on va atterrir deux jours après ou trois jours après, ou là, c'était le quatrième matin, on savait qu'il y avait un certain vent à l'atterrissage et le vent était plus fort que prévu. On a atterri à 50 km/h. Donc là, on se prépare pour l'atterrissage, on n'a aucune peur, on n'a pas de crainte, il faut juste être très consciencieux et surtout conscient de ses limites. Parce qu'après 80 heures, on est très fatigué. Donc, faut se dire, voilà, il faut se booster un peu pour la lucidité. Et nous, comme on était en route pour le podium, qu'on allait finir soit deuxième, soit premier, on se battait pour la médaille d'or. On a dit, il faut absolument passer de cette dernière nuit. On n'était que quatre pilotes et on allait être short en lest. Comme on a dû éviter tout l'aéroport de Berlin, on a mangé 90 kilos de sable qui nous ont manqué à la fin. Donc, pour terminer la dernière nuit, on a décidé le soir même d'utiliser du lest. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pour garder du sable pour l'atterrissage, pour être très précis, il va falloir balancer du lest. Et on a sacrifié du lest. Comme chaque année en Gordon Bennett, les pilotes sacrifient du matériel, des équipements, etc. Donc, on a pris un grand sac et on a mis, moi j'ai mis mes charentaises, mon damar, un pull, et puis on a mis la fin de la bouffe et de la boisson. Donc, on a mis le pâté, les pruneaux, les jus de fruits, le pain, etc. Et on s'en est servi de lest pour piloter toute la dernière soirée en balançant 50 grammes de pain, un pull, une charentaise, un pyjama, etc. pour pouvoir garder du sable jusqu'à la dernière nuit. Et quand on s'est posé le mercredi matin, on n'avait plus rien à bord, il nous restait 10 kilos de sable. Et on était parti avec 700 kilos de sable. Donc on a fini vraiment, c'est comme si vous faites 800 kilomètres sur l'autoroute et vous terminez avec la dernière goutte d'essence jusqu'à la station. Donc là, c'était stratégique de dire on sacrifie l'équipement. Et nous, on n'a pas balancé du matériel, mais il est arrivé certaines années en Gordon Bennett que les gens balancent du gros matériel, une bouteille d'oxygène, un appareil photo, etc., pour gagner des kilomètres pour aller jusqu'à la fin. Bon, là, les Suisses ont fait une course d'attente, ils étaient 100 kilomètres derrière nous, ils ont attendu qu'on se pose juste pour nous dépasser, ils se sont posés 3 kilomètres derrière. C'est de bonne guerre, La France, on leur a fait le même coup en 2009 et en 2012. Ils se sont posés en premier et on leur a grillé la médaille d'or deux fois de suite. Donc là, ils ont dit, on ne s'est pas fait avoir une troisième fois. Donc c'est nous qui en avons fait les frais. Mais c'est vrai que si on avait eu 50 kilos de sable en plus, je pense qu'on tirait jusqu'à l'Atlantique et on serait allé se poser sur la plage. Et là, ça aurait été la guerre au mètre près, deux ballons qui se posent sur la plage, mais ça n'a pas eu lieu. Voilà.
En tout cas, voilà, une très belle course hein, que moi, personnellement, j'ai pu suivre via les réseaux, hein, la page Facebook qui a été alimentée et on avait pu suivre un peu le vol vraiment tout au long de ces 81 heures. C'était vraiment très, très intéressant. Voilà, j'ai eu le plaisir de connaître la Gordon Bennett lors de son départ tout près d'ici à Châtellerault en 2002 avec la victoire de Vincent et Jean-François Laize qui l'ont remporté trois fois de suite. Voilà, une course magnifique. Est-ce que après ces quelques jours, quelques semaines de repos pour se remettre de ce vol, on aura le regard tourné vers la nouvelle compétition qui aura lieu l'année prochaine?
Alors, on est déjà tourné pour l'année prochaine parce que d'une part, quand on prépare un PC course et les pilotes entre nous, on a déjà fait réunion de préparation au mois de mai, réunion avant la course, etc. Là, on est en train de préparer ce qu'on va appeler un débriefing. Dans les prochaines semaines, on va se faire une petite réunion sur une journée juste pour débriefer un petit peu ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, est-ce qu'on a pris les bons choix, les bonnes tactiques, etc. pour gagner en expérience d'année en année. Et on fera quand même ça autour d'une bonne bouffe au restaurant pour fêter ça tous ensemble parce que le PC course, ils sont enfermés pendant trois jours devant un ordinateur dans une salle sans voir le jour et la nuit. Et nous, on était dans le ballon. Donc, c'est intéressant de se voir physiquement parce que je pense que pour le PC course, c'est hyper stressant parce qu'eux, ils sont derrière des clics, derrière d'ordinateurs. Et nous, on est à 3, 4, 5 000 mètres dans le noir en train de piloter et vice versa, quoi. Donc, c'est intéressant qu'on se revoie. Donc, forcément, faire un débriefing, c'est au mieux, c'est préparer au mieux pour l'année prochaine. Et évidemment, l'année prochaine, c'est en Suisse et on aura à cœur, j'espère, de gravir une marche supplémentaire, que ce soit France 1, France 2 ou France 3, quel qu'il soit, il est toujours intéressant que ça soit là, la nation qui gagne et d'entendre une Marseillaise, quoi. Voilà.
Et ben avec grand plaisir, on va se tenir au courant bien évidemment et on essaiera de se retrouver bien sûr dans l'année pour suivre un peu la préparation et voir un peu tout ce qui se prépare pour cette nouvelle compétition. En tout cas, une nouvelle fois, félicitations pour cette course et cette deuxième place, voilà, remportée par votre équipage avec Benoît Avray. C'est 80 heures et 53 minutes de vol et je le rappelle 1556 km donc parcourus durant ce vol, donc un parcours incroyable. En tout cas, un grand merci à vous pour cette aventure que vous nous avez partagée grâce au réseau et on l'espère à l'année prochaine.
Merci beaucoup, au revoir.